Les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. En Libye, des roquettes se sont abattues dans la nuit de mardi à mercredi dans le périmètre de l'aéroport de Mitiga, seul aéroport en service dans la capitale libyenne Tripoli, sans faire de victimes ni de dégâts. Un avion de la compagnie libyenne Libyan Airlines a été dérouté vers l'aéroport de Misrata à 200 km à l'est de Tripoli, selon la même source qui s'exprimait sous couvert de l'anonymat. L'aéroport de Mitiga, situé à l'est de la capitale libyenne, avait été fermé du 31 août au 6 septembre en raison de combats entre groupes armés rivaux près de la capitale. En Côte d'Ivoire, l'aile dure du Front populaire ivoirien, fondée par l'ancien président Laurent Gbagbo, a demandé hier le report des élections locales prévues le 13 octobre. Cette formation réitère sa demande de réforme de la CEI, la Commission électorale indépendante. Des précisions avec Nanit Talani.
Soucieux de la nécessité de sauvegarder la paix, le FPI exige le report sans condition des élections locales du 13 octobre 2018 et l'ouverture sans délai des discussions inclusives en vue de la réforme et de la mise en place d'une CEI consensuelle, a déclaré Abdramane Sangaré, le leader de cette aile du FPI, lors d'une conférence de presse à la résidence de Laurent Gbagbo. Il y a 10 jours, le PDCI qui vient de quitter la coalition au pouvoir avait aussi demandé un report du scrutin. Le boycott, c'est vraiment une exception dans notre parcours. Nous voulons aller aux élections et nous ferons tout pour aller à ces élections locales et présidentielles. Nous irons à ces prochaines élections et nous nous donnerons les moyens justement pour que la CEI soit réformée, a précisé Abdramane Sangaré. Cette tendance du FPI avait boycotté la présidentielle de 2015, puis les législatives et le référendum de 2016. L'élection présidentielle qui focalise toute la classe politique ivoirienne est prévue en 2020.
Au Mali, le mouvement du contestataire et homme de radio Razbas a annoncé mardi la fin de son accord politique avec l'opposant Soumaïla Cissé. Razbat l'a soutenu pendant la campagne électorale qui a mené à la réélection du président sortant Ibrahim Boubacar Keïta au mois d'août. Le point avec Jacques Aristide.
Le collectif pour la défense de la République, dont Razbat est la figure de proue, indique dans un communiqué que l'investiture d'Ibrahim Boubacar Keïta le 4 septembre dernier par la Cour suprême met fin au processus électoral. Par conséquent, le mouvement met un terme à l'accord politique conclu avec Soumaïla Cissé le 28 juin dernier, soit un mois avant le premier tour de la présidentielle. Le collectif ajoute avoir pris cette décision malgré les irrégularités graves qui, dit-il, ont émaillé le scrutin, dont des accusations de bourrage d'urne, d'achat de conscience et de tripatouillage des résultats. Le mouvement de Razbat, qui a été vu plusieurs fois ces dernières semaines dans des marches de l'opposition, indique qu'il ne participera pas aux élections législatives à deux tours, les 28 octobre et 18 novembre prochains, tant qu'elles seront organisées par le ministre de l'administration territoriale, Mohamed Ag Erlaf, reconduit dans ses fonctions dans le tout nouveau gouvernement du Premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga. L'opposant Soumaïla Cissé a jusqu'ici refusé de reconnaître sa défaite.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique centrale maintenant, Cameroun, le scrutin présidentiel du 7 octobre dans le pays se déroulera dans un environnement apaisé sur tout le territoire. C'est ce qu'affirme le ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Atanga Ndji, alors qu'un conflit meurtrier se poursuit en zone anglophone. Le ministre a fait cette promesse hier après avoir réuni lundi et mardi à Yaoundé les gouverneurs des 10 régions du pays pour faire le point sur les préparatifs de la présidentielle. En RDC, fausse alerte à Kisangani et à Goma sur d'éventuels cas d'Ebola. Quelques décès suspects ont semé la panique dans ces deux villes, mais les échantillons prélevés se sont révélés négatifs à la fièvre hémorragique. Pendant ce temps, les autorités sanitaires continuent leur campagne de sensibilisation auprès des populations dans le territoire de Beni, zone de la province du Nord Kivu où sévit l'épidémie. Et dit Isango a joint dans le Nord Kivu le coordonnateur de la riposte à Ebola, le docteur Bart Njoloko.
On a plus de cas quasiment, on a 0 cas, 1 cas. La courbe aussi, vous voyez, quand on a démarré la réponse, c'était très élevé. Ces résultats-là, vous ne pouvez pas les avoir si vous ne coopérez pas avec la grande partie de la population. Maintenant, il y a quelques résistances, il y a quelques personnalités politiques et autres, sociales, qui influencent des petits groupes. Il y a des acteurs qui manipulent, qui trouvent que c'est l'occasion d'avoir l'argent, c'est une occasion de se positionner, c'est une occasion de préparer sa campagne électorale. Nous sommes conscients que ces petits groupes ont retardé la réponse, mais je mettrai à des si tout celui qui dirait que la grande partie de la population n'est pas consciente de l'existence de cette maladie. C'est une maladie qui a tué beaucoup de gens ici. Et ça a créé des paniques. Il y a des familles qui ont pratiquement vu les gros de leurs membres être décimés. Évidemment, quand quelqu'un est à Goma, il est moins sensible que quelqu'un qui est à Beni ou quelqu'un qui est à Mandina. Mais la maladie est là, était là. L'épidémie Ebola a tué ici. Nous avons des gens qui ont été à l'hôpital et qui sont sortis. Plus d'une vingtaine guéris.
Qu'est-ce que ces gens-là disent à la population?
Il y a des politiciens qui ont déclaré que Ebola n'existait pas. Ils l'ont dit à la télé, ils l'ont dit à la radio. Et quand un élu l'a dit, il y aura toujours une frange de gens qui croient en lui. Et ça, ça nous a pris beaucoup plus de temps de dénuer cela, de défaire cette désinformation qui ne paraît pas très responsable.
Quel rôle jouent les traditions, les coutumes ou même les croyances dans cette résistance?
Les débuts, on a eu un grand problème. Pendant que nos équipes se mettaient en place, il y a eu des frottements entre les coutumes et les équipes d'entraînement. Juste au début, et que nous avons pu cerner rapidement, puisque dans tous les cas, en gros, c'est quasi les mêmes coutumes que nous avons dans beaucoup de milieux où il ne faut pas enterrer les gens la nuit. Les gens étaient encore paniqués de voir les sacs mortuaires. Ils n'avaient jamais vu et emballé les gens dans les sacs mortuaires. Tout cela, au début, c'était un choc pour la population. Si vous aviez un parent et vous vous dites qu'il n'est pas éclairé pendant un jour ou deux jours, on doit les enterrer et quand vous devez aller l'enterrer, on vous demande de ne pas toucher les corps, on vous demande de remettre les corps d'abord dans un sac, après même dans un cercueil. Et ça, ce n'est pas vraiment spécifique à la communauté ici. Tout ça, on l'a vécu partout, et même en Afrique de l'Ouest, ça a été noté, toutes ces résistances-là. Mais nous y travaillons, nous avons approché les chefs coutumiers, les chefs religieux, la notabilité, et nous continuons à travailler.
Docteur, qu'est-ce qui s'est passé à Kisangani? Et même à Goma, il y a eu panique, on a parlé des cas et même des décès. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Ce n'était que l'alerte. Et nous avons fait venir les échantillons que nous avons analysés, et même pour Kisangani. Et tous les trois se sont avérés négatifs.
Le docteur Bart Njoloko, coordonnateur de la riposte Ebola dans le Nord Kivu.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a déterminé à mettre en application son projet de réforme agraire. Le chef de l'État a écarté hier tout risque de sanctions internationales s'il continue sur sa lancée. Cette réforme prévoit des expropriations sans indemnisation au profit de la majorité noire du pays. Les détails avec Abdourahmane Dia.
Je n'ai aucune raison de croire qu'un quelconque pays punira l'Afrique du Sud si nous prenons des décisions qui sont constitutionnelles, légales et respectent le droit, a assuré Cyril Ramaphosa devant le Parlement. La minorité blanche, soit 8% de la population, possède 72% des fermes contre 4% pour les Noirs, qui forment 80% de la population, selon le président sud-africain. Il envisage de modifier la constitution pour autoriser des expropriations sans indemnisation. De nombreux Noirs applaudissent le projet, mais les Blancs s'en inquiètent. Le mois dernier, le président Donald Trump a dénoncé sur Twitter ces expropriations. L'Afrique du Sud appartient à tous ceux qui y vivent. Elle n'appartient pas à Donald Trump, avait riposté Cyril Ramaphosa. Il a assuré hier aux parlementaires n'avoir reçu aucune communication officielle américaine sur son projet de réforme agraire.
Actualité aux États-Unis pour terminer. Une vaste zone de la côte est du pays se prépare au passage de l'ouragan Florence, potentiellement très dévastateur. Classé catégorie 4 avec des vents pouvant atteindre 215 km à l'heure, Florence menace plusieurs États du sud-est du pays. Morgan Guiriec.
L'ouragan Florence devrait atteindre jeudi les côtes américaines. Craignant des inondations majeures, les autorités ont déjà ordonné l'évacuation de plus d'1,5 million de personnes. Les États de Caroline du Sud, Caroline du Nord et de la Virginie sont les plus menacés. L'état d'urgence a été déclaré dans ces trois États, tout comme dans le Maryland et à Washington, la capitale fédérale. Cette mesure ratifiée par le président Trump permet aussi de débloquer des fonds fédéraux. Depuis lundi, les populations ont pris d'assaut les supermarchés pour faire le plein d'eau, de nourriture nourriture et autres produits de première nécessité. De nombreux habitants ont calfeutré les portes et fenêtres de leur logement. Entre août et septembre 2017, les trois puissants ouragans Harvey, Irma et Maria ont causé la mort de milliers de personnes et provoqué des milliards de dollars de dégâts dans la Caraïbe et le sud-est des États-Unis.
Merci d'écouter VOA Afrique.